There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Est-ce qu'il y a une recette infaillible? Moi, je crois surtout qu'il faut qu'ils aient un style, enfin leur style. Ça, c'est surtout la base.
Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Si vous n'avez pas encore écouté Creative Pep Talk, je sais pas quoi vous dire. Vous passez à côté de quelque chose, voilà, c'est moi qui vous le dis. Pour en savoir plus, visitez creativepeptalk.com et suivez Andy sur les réseaux sociaux @AndyGPizza. Aujourd'hui, je suis ravi de vous partager ma discussion avec Chloé Marker et Guillaume Griffon, éditeurs et créateurs de la maison d'édition L'Agrume. Si vous êtes comme moi, passionné par l'illustration et que vous adorez flâner dans les belles librairies, alors j'imagine qu'il vous est arrivé de feuilleter ou même d'acheter l'un des magnifiques livres de leur catalogue. Qu'il s'agisse de livres-objets pour enfants, de bandes dessinées d'auteurs venues des quatre coins du monde ou de la fameuse revue Citrus, vous en conviendrez, Chloé et Guillaume n'ont pas le temps de s'ennuyer. Et c'est d'ailleurs du métier d'éditeur que nous parlerons aujourd'hui. Découvrez comment un couple de passionnés débute sa maison d'édition en 2012 et le parcours qui a été le leur. On discute de leur travail et de leur manière de collaborer avec les auteurs, des coups de cœur ainsi que des réalités économiques liées au métier d'édition, de l'équilibre nécessaire entre indépendance et vie de famille, de l'aventure fascinante qu'a été la revue Citrus, pourquoi finalement ces derniers ont décidé de revendre la maison aux éditions Nathan, et puis on répond également à la fameuse question « Comment faire et quelles sont les qualités nécessaires pour se faire éditer ?» Tout un programme. Chloé et Guillaume ont eu la gentillesse de m'inviter chez eux, c'est donc dans leur salon autour d'un bon thé vert que nous avons discuté. Je vous invite donc à découvrir cet échange haut en couleur et de bonne humeur. Bonne écoute. Cool, du coup, si c'est bon pour vous.
Ouais, carrément.
Allez, okay. C'est parti.
On y va.
Chloé et Guillaume, bienvenue sur Sens Créatif. Je suis ravi de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de pouvoir passer ce petit temps pour parler de votre fantastique maison d'édition.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Je commence toujours mon podcast par la même question. Qu'est-ce qui vous motive à sortir du lit le matin?
Je te laisse la primeur de la réponse.
Non, mais on savait que tu posais cette question. Donc nous, c'est pas le travail qui nous motive. Hein, c'est très simple. Donc on a quand même la vie de famille qui se mélange à la vie professionnelle. Et donc ce qui nous tire du lit le matin, c'est nos enfants hein, qui en a trois.
Le biberon. Voilà.
Bah oui, c'est clair.
Tout simplement.
C'est d'abord ça.
On commence la journée comme ça.
Ouais.
On n'a pas trop le temps de se poser de questions. Il y a une urgence à produire des biberons. Et...
Ouais.
Des chocolats chauds.
C'est drôle parce que moi c'est pareil. Je pense que je cogitais beaucoup plus avant d'avoir un enfant et maintenant j'éprouve énormément, enfin beaucoup plus de plaisir à juste être dans l'action en fait. Juste
c'est ça.
Boum boum boum. Cool, très bien. ça voilà, c'est bon, c'est évacué. Est-ce que vous pourriez brièvement vous présenter, expliquer un peu ce que vous faites aux auditeurs?
Tu commences?
Du coup moi ou la maison ou?
Ouais vous avant la maison d'édition.
Ok. Alors, par où prendre la chose? En fait, avec Guillaume, on s'est connus en 2007 chez Autrement. Guillaume était éditeur jeunesse. Moi, j'ai fait un stage long chez Autrement. Je suis passée par plusieurs services de la maison d'édition. Et puis, avec une amie, j'avais monté une petite micro-édition, un peu de livres d'artistes qui s'appelait Graines d'encre. Voilà, c'était assez naïf et très artisanal. On faisait des livres... avec une fabrication un peu manuelle et puis quand même une certaine diffusion parce qu'on avait on travaillait avec Macassar et Guillaume très vite est rentré dans le projet pour un petit peu donner un souffle un peu plus pro au projet. Voilà, ça a commencé comme ça et ensuite moi je suis partie en Amérique latine, enfin surtout en Argentine où j'ai fait un stage de lithographie. dans la perspective de, d'organiser là-bas une exposition de livres d'artistes. Voilà. Mon idée, c'était de découvrir des artistes locaux et ensuite de réunir un certain nombre d'œuvres que j'allais exposer là-bas, des artistes argentins. En fait, on avait fait une première expo avec Guillaume, et voilà, c'est peut-être quand même comme ça que le projet fort a commencé. On a fait une première expo ensemble à Paris de livres d'artistes, qui s'appelait 46 sous la couverture. On avait réuni des artistes de plusieurs disciplines, à la fois des danseurs, des plasticiens, des illustrateurs, et on avait fait cette expo au Mont-en-l'Air.
Ah oui.
Donc, pour l'anecdote, c'était juste avant que Guillaume déménage sa librairie, là où il est actuellement. Et il nous avait laissé son appartement qui était au-dessus de la librairie, qui était vide, qui avait été vidé pour le déménagement, et on avait fait une expo là-dedans. Enfin, voilà, c'était...
Trop bien.
Ouais, c'était assez incroyable. En plus, voilà, il y avait eu beaucoup de monde. Enfin, c'était assez chouette. Voilà, un vrai mouvement. Et puis après, je suis partie en Argentine pour reproduire ce projet.
D'accord. Ouais, ouais.
Et en Argentine, je ne sais pas comment les réseaux se sont croisés, parce que moi, je venais pas du tout de la bande dessinée. Je connaissais personne. Je connaissais même d'ailleurs mal la production en bande dessinée française ou même internationale. Et je me suis retrouvée chez un auteur qui s'appelle Juan Sainz Valiente, qui est aujourd'hui publié par plusieurs maisons en France. Et je sais pas, il avait pour coutume d'héberger des Français, des artistes, des illustrateurs. On s'est retrouvés là-bas et il m'a mis entre les mains Dora.
Ok, ouais.
Voilà. Mmh. Il m'a dit, mais attends, il faut absolument que tu lis ce truc, c'est un chef-d'œuvre. Effectivement, voilà, je suis revenue en France en disant à Guillaume, écoute, je reviens avec un bijou. Il faut absolument qu'on le publie avec Graines d'encre. Et puis finalement, on s'est dit, Graines d'encre, Dora, il y a un rapport d'échelle qui est pas bon. Mmh. Il faut donner à ce livre plus de visibilité et plus une structure plus pro pour l'accompagner. Et voilà, on a créé la GOM.
Okay.
Donc ça, c'était en 2011.
Donc 2010, ça, c'était 2010, et Dora est sorti en 2012.
Voilà. D'accord.
Voilà. On s'est mis en couple aussi, entre-temps. Voilà.
Ah ouais, ok.
Au début, on était
collègues.
Collègues et ensuite un couple d'éditeurs tout à coup.
Ouais. Wow. Et donc du coup, voilà, c'est Dora qui vous a donné l'impulsion.
Ouais, c'est
ça. Ouais. Et c'est plus ou moins grosso modo en 2012 que tout s'est lancé.
Ouais.
Quoi. C'est,
après, ça s'est fait, mais après, je sais pas, le tapis s'est déroulé, quoi.
Ouais.
On a bossé derrière, mais en fait, il y avait Dora, il fallait le publier, il fallait une structure, et puis après, fallait un nom. Du coup, il fallait créer un catalogue. Puis après, c'était un peu la porte ouverte à toutes nos envies, nos idées. Quoi. On s'est dit, bah, on va faire de la jeunesse, on va faire des livres fous à système.
Ouais,
et puis après, je sais pas, c'est parti. C'est parti aussi parce qu'il y a eu le pop-up de Vincent Godot, qui s'appelle Avec quelques briques. Et puis un autre livre qui a été plus confidentiel peut-être dans sa diffusion, mais qui est vraiment un titre fondateur de la collection jeunesse, qui s'appelle Bonhomme, sa maison et pluie et pluie. Et en fait, dedans, ce sont des petits accordéons.
Mais je l'ai.
Oui.
Moi, je l'ai, ouais. Ouais.
Dont les illustrations étaient réalisées au tampon. Voilà, c'est des petites séquences muettes. C'est un livre, c'est une boîte. Enfin, voilà, on est à mi-chemin entre le livre objet, le livre à raconter, et ça a un peu donné le style de la collection.
Ouais. Mais c'est ce qui m'avait marqué. Dans votre travail, parce que moi, je me suis lancé en 2013 en tant qu'illustrateur. J'ai déménagé à Paris en 2013. Avant, j'étais graphiste, puis je me suis reconverti dans l'illustration. Et vu que j'adore flâner dans les librairies, je suis très vite tombé sur vos bouquins. Et ce qui m'a tout de suite marqué, c'est cet amour de l'illustration très contemporaine, et puis le beau livre, le livre-objet. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu... Est-ce qu'on pourrait dire que ça résume un peu la ligne éditoriale de la maison ?
Ouais, carrément.
Ouais, tout à fait, c'est ça. Nous, ce qui nous plaît, c'est d'aller chercher des auteurs, des illustrateurs qui ont une proposition graphique singulière, forte, personnelle, quoi, tu vois, qui proposent vraiment une écriture. On va chercher beaucoup de jeunes illustrateurs qui sortent de l'école et qu'on accompagne pour faire leur premier livre. Il y a énormément de premiers livres au catalogue.
Ouais. Puis c'est sûr que au début, on a envie de bouffer le monde, j'imagine, quand on sort de l'école. Et c'est là aussi où on fait des magnifiques livres, des livres. Parce que j'avais lu dans une interview, je me suis un petit peu documenté, hein, évidemment, en venant. Et vous disiez que au tout début, votre cheval de bataille, c'était vraiment les livres objets, quoi. Et moi, je sais, à l'époque, Bruno Munari et tous ces trucs-là, c'était vraiment quelque chose qui me parlait beaucoup. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans votre travail, quoi.
Ouais, nous, on est vraiment nourris par tout ça, effectivement. Alors, comme disait Chloé, c'est vrai que quand on a créé la maison, donc on a fait la BD, très vite, on a fait de la jeunesse. Moi, j'étais éditeur jeunesse, et puis on avait quand même vraiment une sensibilité pour les livres pour enfants, pour plein de raisons. Et
les livres objets.
Oui, les livres objets. Et donc tout de suite, on a posé comme principe qu'il fallait qu'on fasse que des livres un petit peu spectaculaires, voilà, qui sortent de la production, qui soient vraiment exceptionnels. Et donc on avait posé comme principe de pas faire d'album. On s'était dit, on fera pas d'album classique. Nous, ça va vraiment être notre ligne. Il faut qu'on développe un truc très personnel aussi, une ligne
forte. On s'est dit,
forte.
Pour arriver sur ce marché qui est déjà un marché quand même très développé, on peut pas arriver en faisant comme tout le monde. Enfin.
Non, bien sûr. Oui,
c'est-à-dire
oui.
Que c'était pas c'est pas du snobisme quand non, je dis ça, non, hein, mais c'était vraiment il fallait avoir une légitimité à arriver là et puis il y avait aussi quand même un parallèle avec ce qu'on faisait avec Graines d'encre, même si
ouais, effectivement, soit,
ça
n'avait
rien à voir
avec
parce que Graines d'encre ouais. C'est ouais, voilà le côté un peu livre objet, on plonge dedans, à mi-chemin entre l'œuvre plastique moi je viens plutôt de là, de enfin plutôt plasticienne et puis
plutôt édition
l'éditeur
le binôme, c'est ça ouais, c'est la partie artistique pour Chloé voilà qui a fait un parcours artistique et puis moi études littéraires de profil éditeur
plus en ouais, sur le ouais, hyper complémentaire quoi
ouais, assez complémentaire pour ça ouais.
Et graines d'encre c'était plus classique sous sa forme.
Non, c'était pas classique, c'est pas le livre d'artiste au sens on n'était pas sur de la bibliophilie ou
ouais. En fait, en gros, moi Graines d'encre, c'était un peu
des
petits récits illustrés, donc il y avait un côté un petit peu album pour adultes avec quand même toujours un travail, on aimait qu'il y ait un travail sur la forme ouais. Et une intervention comment dire un peu bah manuelle sur les bouquins, ça c'était le côté un peu livre d'artiste, c'est-à-dire que tous les livres, enfin beaucoup hein quand même était finalisé à la main, tu vois. Donc il y avait un peu une intervention. C'est un tout petit tirage, hein. C'est pour ça qu'on était dans le registre du livre.
Financiel, hein.
Ouais, la micro-édition,
livres,
hein.
Quatre, cinq titres, une ou deux
expos. Donc c'était quand même un petit projet. Mais c'est vrai que du coup, il y avait un parallèle entre Graines d'encre, avec le livre d'artiste et les livres jeunesse, le début de notre collection jeunesse, qu'on présentait comme ça. On disait, nous, on veut faire du livre d'artiste pour les enfants. Donc vraiment pour les enfants,
ouais,
donc
début,
adapté pour les enfants. On avait cette espèce de, un peu de mot d'ordre.
Ouais,
livre d'artiste pour les enfants,
famille,
il faut que ça soit sur des, enfin, jouer sur des formats, des livres à manipuler, quoi. Des livres qui racontent des choses, mais aussi comment dire, qui propose une expérience physique un peu originale pour les enfants, quoi.
Ah oui, mais mon fils, là, comme je vous ai dit, il a 16 mois, là, les livres, qu'il préfère, c'est ceux où il se passe plein de choses. Il l'ouvre. Son livre préféré, c'est La couleur des émotions, un grand classique que vous connaissez.
Ouais.
Il ne s'en lasse jamais. Puis il y en a un autre, La promenade de la petite fille, où il y a constamment des
flammes.
Ouais, enfin, c'est juste incroyable, quoi. Enfin, bref, c'est d'être un sacré travail,
pour
quoi.
Pour se un peu rattacher comme ça à une famille, se réclamer d'un mouvement éditorial, voilà, on était assez proche des Trois Ours. Donc,
je connais pas.
Alors, maison d'édition,
c'est une maison d'édition en même temps que diffuseur, donc c'est le diffuseur de Komagata, donc on était vraiment proche d'eux, même amicalement, donc c'est le diffuseur de Komagata, des œuvres de Komagata en France.
D'accord.
En gros, alors après aujourd'hui, je sais plus trop si où est-ce qu'ils en sont, mais en gros, ça passait quand même plutôt par les Trois Ours pour trouver les livres de Komagata, et puis tout un travail de diffusion, c'était vraiment Komagata et Munari. Ça c'était vraiment peu beaucoup, et puis d'autres artistes, hein. Mais c'était vraiment, on était là-dedans sur le livre d'artiste et plutôt le livre d'artiste pour les enfants.
C'est d'ailleurs
donc,
elle qui a fait
proche.
La première édition de l'ABCDR de comment elle s'appelle
Marion Bataille, ouais. Ouais.
D'accord.
C'est un ABCDR un livre pop-up qui a été édité après par, je sais plus
voilà,
quel est l'éditeur,
de...
mais le premier livre confidentiel, c'est Les Trois Ours. Enfin, c'était
d'accord.
Vraiment un peu des chineuses.
Un peu, c'est livres que tu prends et que tu tournes la page et puis c'est une surprise à chaque fois parce que tu t'attendais pas du tout à ça parce que c'est un jeu formel. Donc c'est vrai que nous on avait cette proximité avec Les Trois Ours. Ouais.
D'accord. Et concrètement, ça ressemble à quoi le travail d'éditeur? Une journée type et pour un peu vulgariser ce métier qui fait, je crois, rêver beaucoup de gens au final, quoi. Ouais.
Dans les pires, les meilleurs. journée type, j'imagine comme plein de boulots dans nos boulots, il y en a pas vraiment. Après, on fait quand même beaucoup de, on gère beaucoup de planning, planning de.
Bon, ouais, bon, il y a mille choses, hein. C'est vrai qu'il y a, pour faire un livre, le créer, l'accompagner. Donc ça, il y a mille étapes. Donc il y a toute la partie, en gros, il y a deux grandes parties, hein, pour l'éditeur. Il y a la partie production. Donc là, on produit, on accompagne le livre. Donc depuis le tout début, alors on lance des illustrateurs. Donc ça, c'est, si je fais toute la chaîne.
On lance ou on reçoit des projets.
Alors on reçoit beaucoup de projets, énormément de projets. Et puis on fait pas mal un peu de veille, on regarde sur les réseaux, Donc ça, c'est plus Chloé qui fait ça. Un peu d'être attentif, à repérer des jeunes illustrateurs. Et puis on va solliciter. On va dire, nous, on adore ton travail. Est-ce que ça te plairait de...
D'accord. Ouais.
Alors, Quand les gens nous disent oui, mais là votre commande elle est pas claire. Non, en fait, il y a jamais de commande. Enfin, nous c'est vraiment, on lance une petite bouteille, une petite flamme et ça prend ou pas, mais il est jamais question voilà de
d'une vraie commande.
Donc après il y a le livre qui lui est engagé, donc on va le faire. Alors, avant d'être sûr de le faire, on le travaille. On n'est pas forcément sûr de, il faut l'ajuster avant d'être sûr de le faire. C'est le moment où on signe un contrat. Il y a un travail quand même avec l'auteur, l'illustrateur pour voir s'il va y arriver. Quoi. Nous on l'aide, on le canalise, mais bon il y a un premier travail. Ensuite une fois que le livre il est engagé, bon bah là il y a un travail éditorial qui continue, qui est plus dans les détails. Donc ça c'est sur la partie éditoriale, il y a une dimension il y a une dimension aussi juridique, on s'occupe des contrats, on s'occupe de un peu de tout le suivi de production, donc c'est-à-dire d'envoyer de faire le lien avec c'est beaucoup un coordinateur l'éditeur. Donc nous on fait le lien entre plein de services en fait hein, enfin maintenant qu'on a vendu, ça on en reviendra bien
oui,
peut-être. Sûr.
Ouais.
Du coup, on est dans une plus grosse boîte, donc il y a plus de services dédiés. Avant, on faisait tout, mais en gros, on est en lien avec le graphiste qui met en page. Ensuite, une fois que c'est mis en page, on l'envoie chez le photograveur pour avoir des chromalins, pour faire la gravure. Ensuite, chez l'imprimeur, bon, ben, il y a aussi toute une étude de fabrication, donc des demandes de devis chez l'imprimeur. Et puis, alors nous, pour le cas des livres objets, livres un peu, voilà, livres avec des formes un peu originales. Donc là, il y a toute une étude avec l'imprimeur de prototypes, donc on demande des prototypes, qu'on ajuste, là ça va pas, là il y a les feuilles qui se froissent, tout ça, donc là il y a toute cette partie aussi fabrication, on est en lien avec l'imprimeur, et puis donc ça c'est la production, et puis la deuxième étape, deuxième grosse partie du métier d'éditeur, c'est une fois que le livre il est fini, donc là on arrive jusqu'à un livre fini, et puis après il faut le vendre, donc là il y a vraiment les deux casquettes, quoi. Il faut l'accompagner, donc ça c'est la commercialisation, donc c'est pareil, là on est en lien avec plein de gens, et donc on coordonne aussi avec, une équipe de diffusion et de représentants qui vont en librairie pour présenter le livre, l'attaché de presse pour la presse, chargé de com qui s'occupe de faire des dédicaces, de faire vivre le livre sur les réseaux sociaux, etc. Voilà.
D'accord.
Donc, en gros, il y a vraiment 1000 trucs. Ah ouais, énormément de mails. Donc, comme on est beaucoup en contact et comme je disais, on coordonne plein de monde, on est tout le temps en train d'écrire des mails à tout le monde, là, pour que la machine avance. Et comme disait Chloé, et qu'elle avance dans le respect des plannings, parce que c'est vraiment très, très cave. Hein. Il faut que le bouquin sorte quand il a été prévu qu'il devait sortir.
Une grosse pression sur les plannings.
Et on doit être très en amont. Enfin, c'est un peu une folie, le marché de l'édition. Et
puis, ah oui.
Ouais. Donc, 2020, tout est quasi bouclé. J'ai déjà 2021 qui commence à être un peu rempli, tu vois. Et puis, j'ai certains titres. Je me dis, bon, ça va être long, mais quand même, il est sympa. On n'est pas sûr d'y arriver, mais pourquoi pas 2022, tu vois. Bon, bah, c'est, donc.
Faut anticiper à mort.
Ouais, beaucoup. Un livre, en gros, c'est grosso modo, à peu près, ça peut pas être moins d'un an, à peu près, hein, tu vois. Entre le moment où tu lances le truc, et puis toutes les étapes et la sortie en librairie, un peu tu comptes un an, hein, ça peut être un peu réduit quand même, hein, mais
ouais.
Un livre jeunesse. Après une BD, ça peut être encore plus long, hein, parce qu'une BD qui fait 150 pages, là un illustrateur il peut bosser un an et demi, deux ans dessus, quoi.
Ouais, bien sûr.
Mais là c'est encore d'autres choses, c'est d'autres budgets, bon, c'est différent.
Ouais. Ok. Et vous imaginez bien que il y a tellement d'illustrateurs, d'illustratrices qui veulent faire des bouquins, qui veulent trouver un éditeur. Donc si j'entends bien, vous passez jamais commande. Mais vous suggérez de temps en temps, vous envoyez des petites suggestions d'idées.
Ouais, exactement.
Mais sinon, c'est à l'auteur, l'illustratrice, l'illustrateur de proposer.
Ouais, parce que nous, on travaille comme ça. On n'est pas.
Non, mais c'est avec vous que je veux discuter.
Oui, d'accord. Non, mais parce que pour dire qu'on n'est pas représentatif.
Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Bon, en même temps, je dis ça, pas passer commande. Là, on l'a fait une fois ou deux parce qu'on a eu le texte de Constance et Julien. On a passé commande à une illustratrice.
Ah oui, un petit peu, ouais.
Ça, c'est un cas exceptionnel où on a reçu un texte. Ça nous était jamais arrivé. Ça, c'est les parents qui sont en nous, qui se sont tellement marrés. C'est un texte, enfin, je peux.
Oui, tu peux prendre coup de cœur.
Voilà. Qui s'appelle Papa, Papa, Papa. Trois fois, Papa.
Papa, Papa. Papa. On en rajoute un.
Trop mignon.
Et c'est assez humoristique et cocasse. En gros, c'est un petit garçon, Papa, je voudrais tellement, tellement, tellement faire de la balançoire, mais la balançoire, elle est cassée. Alors, il y a le papa qui prend la forme de la balançoire. Et puis, bon, c'est une surenchère comme ça de petites anecdotes. Donc, il y a la balançoire, Il veut monter dans
l'arbre. Ah, il veut surfer, ouais. Donc il est à la plage, il y a des vagues incroyables. Il dit papa, j'adorerais faire du surf, mais là ma planche elle est trop petite pour ces grosses vagues. Bon, genre ok, bon d'accord. Et le papa il s'allonge et puis il fait office de planche de surf,
bien sûr, ouais.
Etc. Voilà, toute une surenchère. Et puis à la fin, il y a un retournement à la fin, donc c'est quand même une petite tendresse. Donc c'est rigolo, on se moque un peu, c'est vraiment humoristique. Et puis à la fin, il y a quand même un truc un peu tendre parce que c'est le petit garçon qui vient faire office. Le papa il est épuisé après la journée qu'il a passée avec son fils et il s'est endormi. Affalé sur le canapé sans oreiller comme ça, et c'est le petit garçon qui se met en boule pour faire office d'oreiller pour le papa, donc c'est très mignon. C'est fait, donc ça c'est avec Anouk Ricard qu'on sort ce titre là en janvier. Ah, génial. Hyper drôle.
Ouais, bon voilà, donc on est venu chercher Anouk Ricard,
ouais,
avec un texte,
ouais, c'était complètement adapté,
c'est pas une commande mais quand même
oui bien sûr,
là, donc, ouais. Mais non, c'est vrai que sinon il y a une espèce
nous, on n'est pas du tout un inventeur de concept comme il y a plein d'éditeurs qui font ça, qui réfléchissent, ce comité éditorial, et puis ils ont une collection, on pourrait faire un documentaire en le traitant de cette manière-là, etc. Et puis après, on va aller chercher un autre sur ce concept qu'on a inventé, auquel on a eu l'idée, on va aller chercher un auteur et puis un illustrateur. Ouais, on est vraiment à l'origine du truc. Il y a plein d'éditeurs qui
l'illustration qui nous
du
fait.
Du coup, c'est pour ça que souvent on se dit qu'on fait des livres d'auteurs, c'est-à-dire vraiment c'est des autres, et ça c'est vraiment important parce que le process de création il est un peu différent, et c'est vraiment les auteurs qui font leur c'est vraiment leur œuvre. Quoi, quand ils font un livre avec nous. Donc c'est vrai que nous, on aiguille, comme tu disais, on allume un peu l'étincelle, c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis après, quand ils arrivent avec une proposition, là, on intervient quand même, on rentre dedans, on canalise,
par contre,
et puis on dit...
On est vraiment là. Quand le projet arrive...
On pointe tout ce qui va... On essaie de pointer tout ce qui va pas pour que ça, tout soit fluide, tout soit un peu évident, enfin bref.
Donc j'imagine qu'il vaut mieux venir avec un concept plutôt qu'un projet clé en main, quoi.
Non, il y a pas de règle. Après, clé en main, nous, on va pouvoir,
si y a besoin de revoir des choses,
si y a des petites failles, on prend.
J'aime qu'il arrive.
Oui, ça arrive, des projets qui sont parfaits.
Bonhomme, sa maison est plus, elle arrive avec ce projet qu'elle avait produit comme ça de façon très, très, très rapide. C'est un livre avec que des trous de différentes formes, que des trous et des couleurs qui forment des images par superposition, par association. Bon, là le projet arrivé, il était. On a corrigé peut-être une tonalité, le bleu. On a dit, on va peut-être mettre plus de cyan et moins de jaune.
Ouais.
Mais après, le projet était là, quoi.
Ouais.
Donc parfois, quand c'est génial, on est capable de dire, allez, c'est génial, hein. Duel au soleil.
Je l'ai lu aussi.
Touché, fantastique.
Enfin, Duel au soleil, vraiment
très peu
de choses de nous.
Il n'y a pas non plus toujours à intervenir ou à. Mais après, ça dépend tellement. Nous, c'est vraiment l'illustration. Enfin, si vraiment graphiquement il y a quelque chose qui nous fait vibrer, on est prêt.
Ouais. C'est un peu ma question. Qu'est-ce qui vous fait vous pencher sur un projet plutôt qu'un autre, sur un profil? Quels sont les ingrédients qui, selon vous, vous dites ah ça, là, c'est bon, ça va être un bon livre?
Moi, j'adore la peinture. Okay. Vraiment la peinture. Enfin, presque si je pouvais être radicale et faire que des livres d'illustrateurs qui travaillent en peinture. J'adore.
Ah, Manuel Marsol, pour le coup.
Voilà, Manuel Marsol, Camille Louzon, Charline Colette. Enfin, je cite comme ça.
Ouais, bien sûr.
Après, il y en a plein auxquels je pense pas. Voilà, j'adore la nature aussi. Les gens qui travaillent les végétaux, les paysages, ça me transporte. L'humour, ouais, un petit peu comme ça sur mes critères, quoi. C'est un truc qui tout à coup me réveille. Je sais pas, après.
Bon, après un bon livre, ça repose pas uniquement. Ah oui, c'était pour l'illustration. Qu'est-ce qui
pas
fait...
forcément, mais qu'est-ce qui vous fait vous pencher? Pourquoi vous vous dites, allez avec lui ou avec elle, c'est parti, et pas avec quelqu'un d'autre, par exemple?
C'est difficile. À la fois,
faut aussi se projeter sur quelqu'un qui va être capable de tenir sur la durée, d'avoir de faire qu'il ait aussi une illustration qui puisse être narrative. Enfin. Ah, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est pas compliqué, mais je sais pas si je saurais.
J'imagine qu'il y a une grosse part d'instinctif aussi chez vous.
C'est comme une pulsion, quoi.
Ouais. Mais j'imagine qu'il y a parfois des coups de cœur comme papa, papa, papa. Et puis, j'imagine, hein, vous me corrigez si je me trompe, mais qu'il y a peut-être des choix peut-être plus commerciaux. Vous dites, parfois les réalisateurs, ils disent, bon, ça c'est mon travail d'auteur, ça c'est pour payer mon prochain film, quoi. Est-ce qu'il y a aussi un petit peu ça?
Bon, à notre échelle, non. Enfin, moi je dirais que, des fois on tente aussi, il y a un paramètre qui a changé, je trouve, depuis la création de l'Agrume. On est devenu 3 fois par an, depuis, c'est-à-dire on a 3 enfants.
Ouais.
Bah, ça a changé des choses, parce que, à force de lire des livres à nos enfants, on s'est dit, ça c'est génial, je l'adore, mais par contre, j'ai pas du tout envie de le lire à mon enfant. Ou d'accord. Alors, j'ai tellement envie de lire ce genre de livre à mon enfant, mais il n'existe pas. Ou bon, ça a aussi influencé. J'essaie de raccrocher la question qui était.
Vos choix.
Ah oui,
il y a les coups de cœur et peut-être
voilà,
faire tourner la maison.
Un peu. Un petit peu des thématiques qu'on trouve sympas et qui sont effectivement peut-être moins des œuvres singulières, mais sur le sujet ou alors le type de livre qu'on trouve sympa.
Mais... Bon, on a quand même un coup de cœur sur une petite production à peu près d'une quinzaine de titres. On a quand même un coup de cœur sur chaque livre qu'on va défendre, accompagner le maire.
Ouais.
Alors vraiment, le coup de celui-là, je le sens et je le fais parce que je l'aime pas plus que ça, mais je le fais parce que je sens qu'il va cartonner. Ça, on est quasi sûr de se planter. Hein. Ça marche pas trop. Ouais,
ça, c'est le flair, quoi.
De toute façon, je crois qu'on s'est jamais dit tel livre va cartonner.
Ah oui, vous pouvez pas prévoir?
Non.
Peut-être c'est une question
prévoir, qu'on... On peut peut-être prévoir l'inverse, presque. Non, on se dit, bon, celui-là, on le fait, mais on sent que ça va être dur, mais on va quand même le faire, parce qu'il est génial, il est pointu, mais on le fait.
Il y en a un, ça nous a donné tort, c'est marrant, hein. Là, Mona.
Ah oui, voilà, ouais, Mona, on en a fait un petit
livre,
enfance.
On l'a fait parce qu'on adore l'auteur.
Voilà, très, très beau, très original, singulier. Un livre d'artiste.
Ouais.
D'ailleurs, lui, au départ, c'était vraiment un livre d'artiste qui devait faire avec une micro-édition vraiment un peu artisanale, et puis, et elle n'arrivait pas à le faire, c'était compliqué pour elle. Du coup, nous, on l'a fait en plus grosse production.
Tu dis elle ?
Bah, c'était les doigts qui rêvent, je crois que c'était elle.
Ah oui, tu parles d'une éditrice.
Non, au départ, c'est un projet qu'il avait depuis longtemps et puis qu'il est non, une maison d'édition.
Non, parce que c'est un auteur.
Oui, oui, oui. J'ai cru suivre.
Ouais, excuse-moi. Et puis du coup, il nous l'a reproposé puisqu'il l'avait fait depuis des années. Et puis on l'a fait parce que ouais, on trouvait que c'était complètement l'agrume. Ça nous plaisait beaucoup, mais ça nous semblait pointu. Hein. Et puis en fait, il a été très accompagné aussi sur les réseaux sociaux. Il a été vraiment poussé là. Il a séduit. Et puis on est en rupture au bout de 6-9 mois. Donc celui-là, on pouvait pas parier.
Génial.
Ouais, c'est chouette.
Ouais.
Ouais. Bah, j'ai posé notamment la question parce que j'ai demandé un petit peu aux auditeurs. Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez peut-être poser à des éditeurs? Et cette question-là a été ressortie. Est-ce qu'ils arrivent à prédire?
À prévoir.
Ouais, c'est ça, ouais.
Non. Dora, par exemple, pour nous, c'était génial. Vraiment, le livre qu'on allait s'arracher tellement, tout est parfait, la narration.
Ah, c'est vrai, en plus. Magnifique.
Et, c'est pas ce qu'on appelle un carton, quoi.
Ouais.
C'est des bonnes ventes, c'est correct, mais on est.
Et vos cartons, c'est quoi?
Nous,
sont plutôt à l'international, carton.
Ouais, c'est
intéressant, ça.
Ouais, c'est là où on vend bien. C'est-à-dire qu'on vend pas nos livres à l'international, nos livres en français, hein. C'est-à-dire qu'on vend les droits.
Ah oui, d'accord.
Oui, voilà. C'est ça. C'est pas.
Donc,
c'est pas sur le détail,
les éditeurs étrangers sont assez attentifs à notre production, justement, parce qu'elles se distinguent peut-être un petit peu de tout ce qui se produit.
C'est sûr.
Et on vend pas mal nos droits, en fait. On vend les droits pour des éditions étrangères. C'est un domaine qui marche bien économiquement pour nous. Ouais, on est assez bon.
Et ils s'intéressent à des titres en particulier,
Il y en a deux, trois qui sortent du lot. Il y a la Mégalopole, il y a l'orchestre de Chloé Perrin-Arnaud.
Ouais, l'orchestre, c'est beaucoup vendu. Maman Renard, c'est un peu plus ancien, livre avec des découpes aussi, donc un peu avec une forme originale, pareil, qui s'est très bien vendu. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ça, c'est un peu les trois.
Après,
il y a des titres qui se vendent un peu plus en, et qui ont fait deux, trois sessions.
Il y a une année où
le
chiffre d'affaires était assez étonnant parce que, moi, je vais pas m'avancer sur les chiffres, mais en gros, sur les ventes de droits, on était presque.
On faisait 50, on faisait le même chiffre en droits qu'en librairie en France. Donc,
c'est
énorme.
Bah ouais.
Ouais.
C'est ouf.
C'est atypique.
Et après, nos succès. Donc effectivement, il y a la Mégalopole de Cléa Dieudonné. Là, c'était un livre avec une espèce d'une reliure particulière comme un rouleau, et puis ça se déroulait comme une espèce de rouleau.
Ouais,
donc
je l'ai vu.
Donc ça s'est bien vendu. Ouais, on est en rupture aussi sur celui-là, le Maman Renard que j'évoquais là qui s'est vendu à l'étranger aussi bien. Donc ça c'est pareil. Nous en gros nos best-sellers, donc c'est quand même des ventes moyennes, hein, les best-sellers nous c'est 5000, voilà en gros. On dépasse pas 5000, tu vois,
oui,
donc c'est pas des gros cartons de dingue, hein. Même qu'on a eu plein de presse. Alors là on a une BD qui est pas vraiment une BD, qui est une espèce de guide sur New York, une BD pour adultes.
Ah oui.
Les entrailles de New York.
Il y a eu pas mal de presse dessus, il me semble.
Alors là toute la presse un peu vraiment on a jamais eu ça.
Toute la France.
Ouais, c'est ça. Et donc là, celui-là, ouais, il continue à bien tourner. Alors peut-être que là, on va monter un petit peu, on va faire un peu plus, mais voilà. Alors, en gros, c'est ça. Nos bests, c'est autour de 5000 ex.
Ouais. Ok. Ouais. Alors moi, je travaille beaucoup plus dans la presse et de plus en plus la com et la publicité. Mais je sais qu'un jour, c'est presque une évidence pour moi, je pense que je passerai par la case édition. On demande encore d'ailleurs de temps en temps, qu'est-ce que tu fais un livre, etc. Et, alors je réponds toujours, un jour, je me sens pas encore pire prêt, mais peut-être que je le ferai un jour. Mais je sais qu'un des facteurs aussi, c'est le l'aspect financier en fait. Tout le monde sait qu'en France, publier un livre, c'est prestigieux, mais ça paye pas énormément. Et je sais, en discutant beaucoup avec mes amis illustrateurs, illustratrices, comme je vous le disais tout à l'heure, tout le monde veut se faire éditer. Mais cette question des finances, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça?
Plein de choses.
Allez, c'est parti.
On va peut-être pas toutes les dire.
Ouais, bah alors c'est sûr que c'est fonctions, ouais, c'est très compliqué. Hein, c'est presque un petit peu insoluble parce que le marché de la librairie, il est difficile. Il y a une grosse production, donc du coup, il y a quand même une économie qui est compliquée. Donc c'est sûr que c'est pas généralement. Hein, c'est sur nous en plus, on fait beaucoup de premiers livres, donc ça c'est des jeunes illustrateurs, auteurs illustrateurs, et du coup, c'est entre l'avance qu'on propose. Donc ça, je sais pas si tu t'es en tête. Hein, tu vois, du coup, un pourcentage sur les ventes. Hein, voilà ce que touche l'auteur. Un pourcentage sur les ventes qui touche. Enfin, c'est clôturé au 31 décembre et puis il le touche sur le premier semestre de l'année suivante. Pourcentage sur droit, qui est en gros de 7, qui est en train de monter. Là, du coup, donc, il y a un peu tous les auteurs illustrateurs qui se mobilisent pour essayer d'obtenir un meilleur pourcentage de base pour la jeunesse, hein,
Bien sûr. Ouais.
Donc là, c'était 6, moi, quand je l'ai commencé il y a une quinzaine d'années, c'était 6%. Donc 6%, quand ils sont deux, ça arrive quand même plein de fois que ce soit deux, auteurs illustrateurs, toi, divisé par deux, c'était 3%. Enfin, c'est vraiment tout petit.
Ah ouais, c'est clair.
Donc là, on est plutôt en train de monter pour essayer d'avoir comme base 8, se battre pour 8%. Donc là, ça, un pourcentage. Et ce pourcentage, il touche une avance sur droit. Hein, donc, un avaloir au moment de la signature du contrat. Et c'est sûr que, il y a un écart entre le temps de travail,
Non,
facilement
fou.
Avoir un écart entre l'avance qui est proposée et puis le temps de travail que ça demande. Alors, faut voir aussi que c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que l'auteur illustrateur, il est payé aussi, il y a quand même une rémunération, longtemps après la production. En fait, il y a le temps de production qui, lui, est couvert par l'avance.
Oui, bien sûr.
Où il fait les lits et il va bosser pendant 2 mois pour faire un livre jeunesse, mettons. Et là, c'est l'avance. Il a l'avance pour vivre pendant 2 mois. Mais par contre, il aura, après, si son bouquin se vend, on peut espérer qu'il se vende, et avec les ventes de droits internationales, bon, ben, il touchera. Faut voir que aussi, c'est un peu un investissement sur plus tard. Quoi,
ouais.
Mais ça peut être 1 an et demi, 2 ans, tu vois.
Oui, et puis
il peut toucher une rémunération. Il peut toucher.
Rien,
alors voilà, il y a plein de livres qui ont du mal avec tout ce qui se vend.
Et
ils ne touchent jamais que leur avance.
Ouais.
Et donc, c'est sûr que c'est
vraiment compliqué.
Le rapport. Et on le voit quand même beaucoup d'auteurs illustrateurs, ils ont un équilibre entre le livre, l'édition qui fait partie du coup c'est leur œuvre qu'ils font. C'est pour ça que nous on fait des livres d'auteurs et ça rejoint un peu des parcours d'artistes. Ils font de l'édition non pas pour être payés, pour être rémunérateurs,
ouais, bien sûr,
mais parce que ça participe de leur travail artistique d'illustrateur. À côté de ça, ils ont la presse, pour beaucoup ils ont la presse qui est un peu plus rémunératrice, et puis la formation, enfin ils donnent des cours.
Oui,
des interventions,
des workshops,
tout ça,
ouais,
des workshops. Ouais. Donc en gros, ils sont sur un équilibre entre ces trois activités. Faire que de l'édition, il y en a relativement peu. Hein.
Il faut en faire beaucoup. Il faut en faire énormément.
Il faut en faire beaucoup et les vendre. Ouais.
Aller vite.
Et puis que ça se vende bien. Donc ouais, c'est sûr, c'est en fait il y en a très peu qui font. Je crois que c'est très très difficile de faire que ça. Ça c'est sûr.
Ouais, bah, c'est un épineux sujet quoi. Bah, déjà l'argent de base, mais
non, mais c'est vraiment un sujet qui est compliqué. Enfin surtout en plus pour des. J'imagine que c'est pas du tout les mêmes logiques en fonction de la taille des maisons d'édition. Donc quand on est un petit éditeur indépendant comme on l'était, c'était difficile pour nous, c'est difficile pour les auteurs, c'est difficile pour les libraires.
En fait c'est un tout petit marché.
C'est dur pour tout le monde. C'est compliqué.
Ouais.
C'est un peu.
Alors l'auteur illustrateur, lui, il a de ça peut-être qui est plus compliqué, c'est qu'il est en indépendant. Donc du coup voilà, il paye ses charges, ça. Donc le libraire c'est dur pour lui, mais bon, les libraires salariés.
Enfin, il y a des libraires indépendants.
Un éditeur dans une grosse maison. Donc nous maintenant qu'on est dans une, on fait partie d'un groupe. Donc moi j'ai mon salaire, c'est un peu voilà. Il faut que je tienne l'économie de ma maison, mais c'est pas les difficultés sont ailleurs. Pour un auteur, c'est vrai qu'il est indépendant. Donc c'est.
Mais
il y a vraiment cette réalité là qui est terrible,
que
le marché est. Et tout petit en fait, tout petit en économie, et du coup, c'est pour tout le monde, c'est des petites marges. Il y a énormément d'intermédiaires en fait sur un livre, c'est une folie. entre le diffuseur, le distributeur,
donc le libraire, entre la somme de travail,
le coût de fabrication, la partie fabrication, donc ça a un coût important, etc. aussi toute la maison d'édition, bon bref, plein d'intervenants pour un petit prix de vente en fait.
Oui, oui.
Et on est contraint par le marché parce qu'il y a des habitudes d'achat où les gens ils sont pas prêts à mettre non plus beaucoup pour un livre, quoi.
Ouais.
Donc ça fait une économie compliquée.
Il y a aussi des choses qui compliquent encore, enfin sur les retours, enfin je pense que tu connais
les retours.
Ce principe qui encadre la commercialisation des livres, bah c'est-à-dire qu'un livre qui est acheté, enfin qui est commandé par un libraire, donc il va être payé auprès du diffuseur distributeur qui du coup va reverser cette somme à l'éditeur qui la reverse ensuite à l'illustrateur. Mais si le livre se vend pas parce que il a pas marché ou alors parce que il s'est abîmé et puis qu'il a passé je sais pas 6 mois au soleil dans une vitrine ou parce que en fait le sujet a pas pris, enfin toutes les raisons qui font qu'un livre ne se vend pas.
Ouais.
Il est renvoyé chez l'éditeur, enfin chez le diffuseur, mais du coup derrière il se retrouve pilonné. Enfin donc tu vois c'est aussi c'est la partie que tu vas couper là. Je vais pas me lancer là-dedans.
D'accord. Non mais ouais. Bon. Moi je sais que ça fait 6 ans que je fais l'illustration et évidemment comme tout le monde j'adore les livres, je trouve ça magnifique et faire un livre ça me plairait évidemment. Mais maintenant j'arrive au plus ça va au plus dans mon travail au plus j'arrive à l'envisager parce que j'ai de quoi, je peux me dégager du temps. Quand je discute avec mes amis qui font ce métier comme moi, j'ai plusieurs fois entendu l'histoire de je travaille, je sais pas, 9-10 mois, je fais des commandes de pub, de com, de presse, etc. Et puis après je me dégage 2-3 mois dans l'année pour travailler à fond sur un projet et puis peut-être qu'après un an plus tard en fait j'en vois, enfin il y a vraiment un côté stratégique, un équilibre. Mais au début, quand t'as des factures à payer, ou t'as des enfants, ou plein de frais, tu vas pas te lancer dans l'édition. Et pourtant, il y en a qui le font et qui sont hyper courageux. Et on sait tous que c'est, voilà, c'est compliqué financièrement pour tout le monde, quoi. Bon, voilà. oui. Alors justement, on parlait de complications. Vous l'aviez mentionné tout à l'heure. Il y a quelques mois, vous avez revendu la Grume aux éditions Nathan.
Oui.
Est-ce que du coup, on pourrait en discuter un petit peu?
Bien sûr.
Ouais, évidemment, ouais. Donc ça, c'est donc on a vendu au 1er juillet. Pourquoi on a vendu? En fait, les raisons elles sont
pour continuer.
Ouais, pour continuer. Bon, c'est vrai que donc la première des raisons, c'est sûr, c'était économique. Mais il y avait un peu d'autres raisons quand même. Si on fait toute la liste, il y avait aussi, un besoin quand même. Hein, il y avait aussi un besoin donc économique, parce que là, c'est sûr qu'on avait enchaîné des années difficiles, au moment qui on était en déficit. Avec par ailleurs des succès, hein, donc des succès en tout cas de prix. On a vu des prix à Bologne, tout ça, le prix Sorcière. Bon. Mais après, en fait, ce qui est compliqué dans l'économie, c'est que tu vas avoir un livre, des prix d'abord, ça ne fait pas toujours vendre. Et puis quand t'as une mévente, les méventes peuvent vraiment te plomber au-delà de ce que t'as gagné sur un bouquin qui s'est un peu vendu, quoi. Donc difficile. Donc là, d'enchaîner 2 années qui étaient vraiment compliquées. Donc on avait besoin de.
Puis même un succès, de sortir je sais pas de. Pour... Pour rester sur l'économie, je trouve que même un succès, en fait, quand un livre se met à se vendre, pour peu que tu l'aies pas anticipé, t'as pas le tirage, tu retires. Du coup, ce retirage, il te coûte un peu les yeux de la tête. Et enfin, finalement, ces exemplaires que tu vas vendre en plus de ce que t'avais envisagé, c'est presque, en termes de gains, c'est presque rien.
Ouais, bien sûr.
Donc ouais, nécessité économique et puis besoin quand même de sortir de l'indépendance, hein. Tu vois, on en parlait pour les illustrateurs, oui. Ça. Nous, l'indépendance, donc tu gères tout et puis t'as toute cette partie administrative, compta, etc. avec le stress qui va avec.
Quoi, lourd.
Un peu très très dur. Tu sais pas comment la trésorerie quand tu sais pas comment tu vas payer tes auteurs, tes fournisseurs et alors.
Le stress.
Non seulement tu sais pas comment tu vas les payer, et puis après, il faut quand même que toi, tu penses à te payer aussi.
Quand il reste un peu. Bref. Tant qu'à faire.
Ouais. Donc voilà. Donc revenir, sortir de ça pour sortir de ce stress, et puis revenir quand même aussi un peu au boulot, plus boulot édito. Là, moi, je suis vraiment ravi de comment ça se passe, parce que mes journées, je consacre beaucoup plus de temps à être avec mes auteurs, accompagner, à être sur la fabrication, sur la partie production.
Ce que tu as toujours voulu faire au final.
Ouais, moi, je suis formé à ça, donc c'était ma passion. Et puis retrouver quand même, retrouver une équipe, retrouver des une équipe un peu plus large, plus de gens, parce que nous on était en tête à tête avec Chloé, donc ça c'est bon, c'était super sur les premières années parce que c'était vraiment l'agrume, c'est un projet, ouais, un projet de groupe quand même, hein, et puis ça s'est développé, c'est parti tout petit,
on
et puis c'est
lancé,
un petit peu grossi, et puis après on a fait Citrus,
on n'avait pas d'enfants,
la revue, voilà, puis après on a eu des enfants, bon. Et puis ça a fini là les deux dernières années difficiles. Et puis en plus on a perdu le local qu'on avait, donc on bossait à la maison. Bon, toi à un moment on a dit non, ok, là il faut qu'on change de modèle, qu'on retrouve une boîte, une équipe, et puis une économie saine. Alors on est ravis. Ça se passe très très bien.
Top.
On soulage puis on respire.
Oui.
Voilà, non, c'est très très dur. Toi on parle pour les auteurs illustrateurs, mais c'est vrai. Hyper dur, une petite maison, notre modèle. Alors, je pense que de toute façon, c'est dur pour toutes les maisons d'édition. On amène des plus grosses, elles ont plus de charges, c'est compliqué. Mais nous, notre modèle, la petite maison d'édition, qui fait 10-15 livres par an, qui a pas non plus une longue existence, donc qui a pas non plus un fonds qui lui rapporte beaucoup. Tu vois, le fonds, c'est les livres plus anciens qui tournent. Donc, nous, cette
économie-là,
elle est...
Il y a quand même souvent des mois où on n'avait pas de quoi se rémunérer. Quand t'es en couple, que tu fais le même boulot, et puis, encore une fois, que t'as une famille de 3 enfants à faire tourner,
On le sait, c'est partagé pour on voit toutes les autres les maisons d'édition qui sont un peu de taille équivalente, qui sont on a plein d'amis, nos éditeurs indépendants, bon, et tout le monde connaît les mêmes difficultés, hein. Pour des maisons en plus qui sont quand même, tu vois, on a un diffuseur qui est, on est bien diffusé, tu vois, et puis on a des prix.
Oui, il y a pas de problème.
On n'est pas dans la micro-édition, tu vois, c'est encore un échelon en dessous.
Oui, c'est vrai.
Nous on est dans la petite édition, mais quand même une édition qui est bien diffusée, qui a de la presse,
belle visibilité,
tout ça, qui a des prix. Bon, c'est très difficile.
Mais c'est sûr qu'il faut avoir des nerfs méga solides. Et je sais qu'à titre personnel, je voulais vous demander, vous l'avez un petit peu effleuré, mais c'est comment de travailler en couple, quoi, parce que bon, waouh, quoi.
Bah, c'est génial parce que il y a une énergie créatrice qui aurait peut-être pas
une confiance aussi, vous comprenez,
y a
une affinité.
On vit avec ça, enfin quand on a créé l'agrume, c'était super, on pense qu'à ça, on le voit partout, tel illustrateur, telle idée, tout est sujet à éveiller nos envies de création, donc ça c'est merveilleux. Il y a une grande liberté, on se fait confiance, il y a une facilité de dialogue, donc c'est vraiment vertueux. Au début c'était quand même en tous les cas un peu je pense que ça a été une force supplémentaire d'avoir créé la maison en couple. Puis ensuite c'est sûr que on l'a un peu dit, dès lors qu'on a eu d'abord un puis ensuite 3 enfants, parce qu'on en a eu 2 d'un coup.
Oui.
Bon, c'est sûr que il y a tout à coup une deuxième activité en parallèle que ce même binôme porte de la même manière. Enfin, c'est comme s'il y avait une deuxième entreprise qui s'était mise en route, dans l'ombre. Et c'est là que ça devient plus compliqué parce que on a moins de temps, parce qu'on est plus tendu, parce que on n'a plus envie d'aller faire un petit salon au fin fond de porter nos livres sur le dos, notre nappe, accrocher notre petite déco quand on s'est trimballé dans le train. Après on est moins dispo aussi pour ces choses-là parce que on veut passer du temps avec notre famille, parce qu'on est fatigué. Il y a tout à coup un truc qui s'est un peu émoussé, et puis du coup entre nous, quand il y a beaucoup de sujets tendus ou pas forcément, mais en tous les cas des sujets que tu partages toute la journée sur ta maison, et puis que tu rentres le soir, et puis c'est d'autres sujets, c'est toujours avec la même personne que tu dialogues. En plus, nous avec la grume, on était tous les deux, il n'y avait pas d'autres intervenants. Enfin, il y avait des gens en externe comme la graphiste ou les diffuseurs, mais c'est pas une équipe au quotidien avec qui ça brasse des idées. Du coup, il y a une forme de huis clos qui nous pesait. Enfin, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a eu envie de changement.
Ouais, bien sûr.
Pour oxygéner un peu.
Normal.
Ça, quoi.
Bien
pour,
sûr.
Juste pour revenir à l'économique aussi, sur les débuts, il y a l'élan sur les débuts, et puis effectivement on est complémentaires, donc ça c'est vraiment toute une aventure de couple qui était géniale. Mais dès lors que c'est plus difficile, et puis on a plus de difficultés à gérer la maison d'édition, ça se ressent aussi sur le couple. C'est-à-dire que si ça marche bien, c'est super, il y a un élan, et puis quand ça marche moins bien, ça affecte la partie plus intime.
Tous les deux tu bosses, Guillaume à la fin il faisait des nocturnes jusqu'à 1h du matin, tous les jours, pour la compta, les droits d'auteur, et quand tu sais que derrière t'as pas de salaire,
c'est rude,
c'est un peu dur, quoi.
Ah, oui,
tu
oui,
vois,
oui.
C'est un peu donc ça crée, enfin moi c'est sûr que moi, ça avait créé une sorte de conflit chez moi. Ouais. J'y arrivais plus. Je me disais, mais attends, on bosse comme des fous. Il y a pas d'économie. Il y a un moment, c'était tellement insoluble. Là, du coup, enfin, c'est vrai qu'on est hyper contents parce que c'était inespéré d'avoir ce cadre, enfin, inespéré, je veux dire, à la fois que la maison perdure avec son catalogue, sa ligne.
Mais vous gardez l'ADN, quoi.
Voilà. Aujourd'hui, complètement. Il y a même une espèce de, moi, j'ai quand même une relative autonomie au sein du grand groupe. Donc, moi, je dirige la Grume et puis que la Grume, la marque continue. C'est moi qui, avec tous mes auteurs, je continue à la diriger. Et puis, aujourd'hui, je la dirige. Enfin, donc, j'ai évidemment des comptes à rendre en termes de,
gestion.
Mais par contre, je fais quand même les trucs comme je les entends.
Et c'est plus que toi?
C'est encore, c'est un peu en transition, mais moi c'est vrai que j'avais, voilà, je l'ai un peu exprimé, donc j'avais envie qu'il pas une rupture, mais en tous les cas un peu, je sais pas, chacun son truc, chacun chez soi, et on se retrouve le soir, on parle d'autre chose, voilà. Et puis bon, après moi, peut-être que toutes ces tensions liées à l'indépendance, à l'économie, ont développé chez moi de forts griefs envers le métier. Et donc, comme je te le disais, moi, à la fin, j'y arrivais plus. Et du coup, je garde un œil bienveillant et quotidien sur la Grume. Tu vois, je continue à avoir des idées, à lire les textes, à faire des choses, à quoi pas repérer des illustrateurs. Enfin, je sais pas, Anne Cricard, Charline Colette, ça c'est encore ma patte. Mais non, il y a plus, enfin voilà, dans, je suis plus dans l'équipe.
D'accord. Tu vas te reconvertir dans autre chose.
Voilà. Quoi. Je pars vers autre chose.
Cool. on va se reparler dans 2 ans pour parler de cette aventure-là. Ouais. Là, il y a eu une toute dernière aventure, dont j'avais envie de discuter avec vous, c'est Citrus, que je trouvais magnifique. Enfin, je trouvais que c'était audacieux, c'était drôle, graphiquement, et puis au niveau du contenu, c'était super fort. Et puis j'ai entendu parler de cette exposition rétrospective à la Slow Gallery qui marquait la fin. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure en plus de tout ce que vous aviez déjà entrepris, et qu'est-ce qui vous a poussé à l'arrêter ou le mettre en pause?
Bah exactement, ça résume un peu tout, hein, Citrus. C'est ce qui nous a poussé, c'est notre amour de l'illustration, notre amour des projets, toujours l'envie de voilà d'avoir une autre idée et puis de se lancer comme ça à corps perdu. Après, il n'y avait pas d'autres envies que juste le, enfin, c'était vraiment,
Mais il y avait quand même, avec Citrus, l'idée de travailler, élargir le réseau. Ça, on adore être en contact avec plein de monde.
C'est vrai qu'il y avait
on est vraiment là un peu à repérer surtout la porte d'entrée, comme on disait, c'est l'illustration. Donc, à repérer les illustrateurs, illustratrices qui nous intéressent. Et du coup, Citrus, c'était un lieu pour avoir une espèce, au départ, on se le présentait comme ça, comme un laboratoire pour lancer des jeunes artistes,
comment
jeunes
faire bosser tous ces gens tellement talentueux dont on adore le boulot, mais avec qui il n'y a pas forcément un projet de livre.
Voilà. Eux, c'est pas leur truc, parce que comme tu disais, ils vont pas être dans le temps pour faire un livre,
ou parce que l'inspiration, c'est pas forcément jeunesse.
Et puis nous, on peut pas faire des livres avec tous les gens. Enfin bref, du coup, c'était vraiment multiplier les faire travailler des illustrateurs qu'on aime, les mettre en avant. Voilà, il y a plein de trucs. Ça nous plaisait aussi d'avoir un retour vers le texte aussi, quand même.
Aussi en termes de contenu.
Ouais, ça nous plaisait bien de faire jeunesse et bande dessinée, même les BD pour adultes. On explore des sujets de société qui sont forts et tout ça, mais là d'aller encore une fois élargir le réseau et puis d'aller travailler avec des universitaires, des journalistes, des romanciers.
Voilà,
avec un retour au texte, vraiment du texte plus adulte,
intellectuellement,
public,
c'était fabuleux. Franchement, c'était, il y avait un débat d'idées, on était là, on vivait avec ce thème comme ça pendant 6 mois, on cherchait des auteurs, des idées, des angles, on faisait des rencontres géniales. Enfin, moi Citrus, c'était, alors du coup, on se l'est dit après coup, c'était presque une maison d'édition dans la maison d'édition. Enfin, c'était recréer un truc d'envergure aussi lourd et intense que la Grume.
En fait, on aurait pu faire que Citrus. On s'était fixé un semestriel, même
on
si
on n'a pas réfléchi à ça.
Parfois,
en le faisant, mais
avec notre petite équipe, on aurait pu faire que ça, 2 Citrus par an. C'était
les
un plein
Citrus,
temps déjà.
On s'est fait des nocturnes jusqu'à 5 heures du matin pour vraiment avec des bouclages. Enfin, c'était, il y avait 200 pages, il y avait une 50aine d'auteurs à chaque fois, tous les textes à relire, la maquette. Ouais, c'était quand même ultra ambitieux.
Ouais,
et du coup, avec une économie, alors là.
catastrophique.
Ouais. Là, c'était complètement. En gros, on aurait réussi à équilibrer si on en vendait 5 000 par numéro. Et puis évidemment, donc nous on avait l'ambition, on y croyait, on a tiré d'abord à 5000. Ouais. Et puis c'est pour ça on s'est dit, en plus Citrus, on va sortir du côté niche, tu vois, enfin, niche, c'est-à-dire qu'on peut avoir le roman graphique ou les livres objets pour les enfants, tu vois, c'était quand même. On s'est dit bah voilà, on va pas avoir peur des thématiques, on va surfer sur les marronniers et surfer sur les marronniers. Super phrase. Et on va prendre des thématiques qui peuvent intéresser le grand public. Donc football, les faits divers, la gastronomie, manger. Donc on avait quand même l'ambition. On avait de l'ambition.
Ah c'est sûr. Et ça transpirait l'ambition.
Et ouais non, ça a été économiquement ça a été super compliqué parce que. Et voilà, je te dis, les ventes, elles auraient dû se situer à 5000. C'était plutôt, le premier, c'était pas trop mal, c'était 2005. Et puis très vite, on est descendu à 1005.
Ah oui, des illusions, quoi.
Bah ouais, ouais.
Ouais, et mais puis, encore une coup, fois, des difficultés particulières sur la revue, parce qu'il faut quand même, faut l'accompagner.
Les gens savaient pas où la classer.
Ouais,
alors comme c'était l'agrume, tous les libraires qui nous suivaient sur nos bouquins, ils l'avaient mise en bande dessinée, en voulant bien alors, faire. Hein.
Ouais,
l'agrume,
on s'est retrouvé en bande dessinée, c'était, on n'était pas au bon rayon. Ouais, parce qu'il y avait 2-3 BD dans le numéro, parce qu'il y avait quelques articles qui étaient traités en bande dessinée, parce que c'était aussi
Le rayon revue n'existait pas encore forcément, et n'existe peut-être toujours pas dans la majorité des librairies, donc il fallait le mettre quelque part. Donc,
et puis on était
alors parfois c'était classé aussi par thème, donc football, sport, enfin...
Et puis c'est compliqué parce que c'est une revue sur du temps long, quoi. Tu vois, semestriel, alors que c'est déjà quand même une périodicité quand même qui est assez grande. Mais au bout de 6 mois, t'as la nouvelle qui arrive, l'autre est chassée, alors qu'elle s'est presque pas assez installée. On lui a pas donné le temps qu'il fallait pour ça, quoi. Tu vois, donc.
Et puis la revue, il faut sortir de la librairie, il faut aller sur la diffusion presse, ce qu'on n'a pas voulu faire parce qu'alors là, c'est notre spirale infernale. En gros, je pense qu'on n'avait pas tout à fait les épaules pour ça. On a aussi rencontré de la même manière que on a un groupe d'amis éditeurs. On a aussi rencontré, je veux dire, des gens qui faisaient des revues avec des formats similaires. Et on a bien vu que c'était très compliqué en termes de format.
Ouais,
de trouver un public fidèle parce que t'as aussi le public, qui se retrouve pas dans toutes les thématiques. Alors, t'as ceux qui te font confiance, qui disent si c'est Citrus, je sais qu'ils vont traiter le foot avec autant de finesse ou de justesse que Manger ou Amérique. Il y a quand même des gens qui faisaient des...
Bah, notre public, dans le fond, le public un peu fidèle, et puis il y en avait des gens comme toi qui ont été marqués par Citrus. Il y avait une part du public qui rentrait dans la thématique, effectivement, et puis les publics fidèles, ça, c'est ceux qui s'intéressaient à l'illustration.
Les pros,
voilà. C'était une revue
tous les illustrateurs que j'admirais, ils passaient par chez vous. Pour moi, c'était juste un objet... si on enlève le contenu, juste graphiquement, c'était magnifique.
Ouais. Et donc, ce public, ce que je veux dire, c'est que le public intéressé à l'illustration, qui suit l'illustration, donc, il est tout petit. C'est un microcosme, en fait. Donc, il y a tous les gens qui sont dans le milieu. Donc, les directeurs artistiques, ils connaissent Citrus, ils ont les 6 numéros, les illustrateurs, tout ça. Mais, en fait, au-delà, un grand public qui, lui, n'est pas professionnellement dans l'illustration, mais qui s'intéresse à ce domaine-là, l'illustration, en fait, ça, c'est tout petit. Donc il doit avoir des gens qui s'intéressent à la bande dessinée, qui sont des lecteurs de BD, qui pratiquent pas la BD mais qui sont des lecteurs de BD, tout ça. Donc ça constitue le public de lecteurs de BD. Le public qui est curieux, qui suit tout ce qui se crée dans le monde de l'illustration, ça c'est tout petit. Et dans le fond, du coup, c'était ça notre cible. Donc il y avait un peu un truc qui allait pas, quoi.
J'ai lu dans une petite interview que peut-être que ça date, peut-être que ça a changé, mais il était question que c'était une pause et que vous vouliez reprendre sous une autre forme.
On n'a jamais accepté.
Ouais, on n'arrête pas de se raconter qu'on va le reprendre, hein. Moi, toujours, hein.
Pourtant, on est plutôt des gens très honnêtes avec, nos choix, avec l'économie. Et Citrus, c'est vrai que, on a arrêté à contre-cœur, hein, clairement. Moi, la fin de Citrus, c'était vraiment une petite...
on a été contraints d'arrêter. Et encore, tu disais, on a arrêté pour clôturer l'aventure. On a fait cette grande exposition à la Slow Gallery. Là aussi, on avait donné une thématique, comme Citrus était thématique.
On
avait gardé ce truc.
Que ce soit triste. Alors, on s'est dit,
et le soir, moi, je me revois vraiment le soir du vernissage, blindé, comme il n'y a jamais pour tous nos lancements de bouquins, ça, vraiment blindé de gens, tout ça, à la fin. Je dis, ah non, mais quand même, on a arrêté Citrus. peut-être quand même le continuer sous une autre forme, je voulais pas, quoi. Bah, il y a tellement de monde, ça fédérait tellement de gens, il y avait une énergie,
puis
après, le lendemain du vernissage, on revient à la raison, on se dit, évidemment,
mais économiquement, c'était une folie. Enfin, vraiment, en gros, chaque numéro nous enfonçait encore un peu plus bas.
Ouais, c'est dur.
Donc l'idée de le reprendre, oui, ça serait de plus être un périodique.
Moi, j'adorerais.
Ah, ça serait de plus être une revue. Mais en gros, l'idée de garder l'idée du collectif, parce que ça, c'est vraiment cool de faire travailler sur un thème, collectif thématique, et de faire travailler plein de monde autour d'un thème, ça c'était vraiment super. Mais sous un format plus livre, et puis du coup, qui nous permettrait d'avoir un équilibre meilleur, parce qu'on pourrait peut-être le vendre plus cher, enfin, tu vois, sortir de la logique de la revue, ça fonctionnait pas. Mais donc, oui, on a toujours l'envie de...
Quand j'entends votre histoire, j'ai l'impression d'entendre une de ces histoires de... ces groupes de rock là, tu sais, qui raccrochent, qui disent non c'est trop dur, et puis qui font une tournée d'adieu, et puis 5 ans plus tard ils se disent allez, ça fait 10 ans que cet album est sorti, on refait un truc, ils disent en fait c'est super cool, et hop ils recommencent.
Non mais du coup c'est marrant que tu dises ça, puis en plus là tu vois, on est autour du podcast, enfin il y a ça aussi, c'est un peu de se dire peut-être qu'il faut vivre avec son temps, peut-être qu'une revue de 200 pages en fait c'est peut-être me faire taper dessus par tout le monde, des trucs comme ça, mais peut-être que c'est plus d'actualité, tu vois. Aujourd'hui, c'est peut-être d'autres médias, d'autres manières de véhiculer des choses.
Oui. Mais ça va beaucoup plus vite aussi aujourd'hui. L'information est digérée à une vitesse grand V.
Parce que faire un citrus, c'est quand même, c'est beaucoup de temps.
C'est super intéressant ce que tu dis là, parce que je discutais avec un copain dernièrement de cinéma, et on se disait qu'en fait, quand tel film ou même sur une, des séries de films sortent, en fait on n'a même pas le temps de digérer, je sais pas, ces bateaux hyper populaires, mais tu sais quand le dernier épisode des Avengers est sorti, tu sais il y a des gens qui suivent ça depuis 10 ans, et puis après je sais pas 2 semaines plus tard et boum, il y a l'autre grand film qu'il faut encore voir, t'as même pas le temps de digérer ça, que en fait il y a une surenchère. Ou en musique c'est pareil, moi j'aime énormément la musique, et puis vous savez le vendredi sur Spotify elle est sortie, etc. Ou moi, il y a 2 groupes que j'aime énormément qui ont sorti un album vendredi, et donc je suis hyper content, je les écoute, machin. Puis je sais que presque vendredi prochain, il y aura peut-être un nouvel album, et je regrette un peu à l'époque où, à l'époque quand j'achetais des CD, je suivais des groupes. Je m'intéressais aux paroles, je lisais les petits livrets, tu vois, et qu'aujourd'hui, en fait, t'as tellement pas le temps, en fait, ça va tellement vite, et je trouve ça super triste.
Là c'est ça. On pointe un gros problème d'époque, mais qui concerne à 100% le livre, hein. Tu vas en librairie, tu discutes avec un libraire, ils croulent sous les livres. Ils reçoivent des cartons, et les livres, ils restent en place sur table, quoi, 1 semaine, 10 jours, s'ils arrivent à trouver un coin de table pour faire une pile, et puis après ça part, parce que, il y a comme ça une super production, ça c'est de la spirale infernale. C'est sûr que sur l'économie de choses comme ce qu'on fait avec l'agrume ou ce qu'on faisait avec Citrus, c'est fatal. Enfin, nous on faisait des livres de fond parce qu'il y a des gens qui produisent aussi dans cette idée de choses comme ça plus rapides. Mais nous notre démarche c'était vraiment de faire des livres de fond. D'ailleurs, c'est une politique qu'on a toujours eue. C'est tous nos livres de notre catalogue sont toujours disponibles.
Oui.
Parce que voilà, il y a pas de livre qui se périme. Mais c'est sûr que le marché empêche ça, clairement.
Si j'entends bien, vous vivez une sorte de renaissance, quoi, quelque part, avec Nathan.
Ah bah oui.
Et puis, il faudrait croire que Citrus, c'est pas terminé, et que justement, pour vivre à travers son temps, avec son temps, pardon, vous trouverez peut-être un nouveau format. Parce que le cœur, il a toujours l'air d'être là, quoi.
Ah bah oui, ça c'est sûr que Citrus, c'est un format. Enfin, moi, le podcast, ça fait écho aussi, avec ce qu'on développait dans Citrus, c'est-à-dire les débats d'idées, des thématiques fortes. Il y avait l'illustration évidemment qui là n'a pas lieu d'être.
Ouais, bien sûr.
Mais on n'y réfléchit pas activement du tout, mais voilà, régulièrement ça revient comme
à suivre.
Ouais.
Super. Juste la question de la fin, quel conseil vous donneriez à un auteur, un illustrateur, une illustratrice qui aimerait percer dans le milieu de l'édition ou qui aimerait se faire éditer?
La petite parenthèse, depuis 2 ans, j'interviens dans une école d'illustration qui s'appelle Condé.
Ah, ok.
Auprès des Master 1 en illustration de bande dessinée. Donc, c'est un petit peu ce que j'essaie de faire avec eux, de leur donner les clés pour se préparer à ce métier. Est-ce qu'il y a une recette infaillible? Moi, je crois surtout qu'il faut qu'ils aient un style, enfin leur style. Ça, c'est surtout la base, parce que il y a peut-être aujourd'hui un peu la tentation de de vouloir s'adapter à des médias ou à des
Alors après un style et puis il faut un style fort et puis il faut quand même il y a un juste équilibre, je trouve, toujours à trouver un style singulier, personnel et puis affirmé, mais quand même en tout cas pour la jeunesse assez lisible, tu vois, assez accessible, faut pas non plus des trucs trop trop expérimentaux en termes de d'écriture graphique quoi. Non, un conseil que je donne à tout moi, c'est un conseil serait de se nourrir. Donc c'est vraiment d'aller donc en jeunesse, hein, mais ça peut être pareil en BD. Mais nous on fait quand même plus de livres jeunesse. C'est d'aller en librairie et puis du coup en bibliothèque aussi énormément, parce que comme on disait, en librairie il y a pas toujours beaucoup de fonds, mais en bibliothèque on trouve tout le fond. Donc c'est vraiment d'aller regarder, d'aller lire des albums et puis se
nourrir.
Se nourrir intellectuellement, s'inspirer. Donc ça c'est sûr, faut pas être devant sa table et puis bon, maintenant je fais un livre jeunesse, faut quand même aller voir tout ce qui s'est fait avant, d'où ça vient, il y a une histoire, comment on raconte une histoire, ou alors un livre à principe. Ça peut être un livre non narratif, mais comment on fait tout ça? Qu'est-ce qui s'est fait avant moi? Donc ça, faut vraiment faire toute cette démarche-là. Ça, c'est vraiment capital, je crois. Voilà. Donc effectivement, de développer son écriture, son écriture graphique.
Et le fond, un discours, j'imagine aussi, ou pas forcément?
Non. Enfin, un propos. Bah, un propos, oui, mais en même temps, ça peut être une image derrière qui.
Oui, c'est vrai. Ouais, complètement. Donc, comme un abécédaire, par exemple. Mmh. C'est juste le style graphique.
Après, il y a quelque chose qui pollue les boîtes mail, mais en même temps qui peut porter ses fruits. Ça peut être régulièrement d'envoyer comme ça une image.
Ah oui.
Alors, il faut sélectionner. C'est sûr que nous, on reçoit encore des romans ou de la poésie pour adultes. Bon, c'est mieux de bien cibler les gens à qui on envoie son boulot, mais comme ça, régulièrement, tac, une image.
Se rappeler à l'éditeur.
Juste une image, ouais, voilà, quelque chose de très simple. Parce que je pense que y a pas mal de gens, enfin, qui travaillent dans l'illustration, qui peuvent fonctionner comme nous. C'est-à-dire, t'accroches sur un truc et hop, tu réponds comme ça sur un.
Ouais, il y a une alchimie qui se crée.
Ouais, voilà.
Ouais, une rencontre, quelque chose.
Ouais, parce qu'après, c'est pas. Je crois quand même que les réseaux sociaux aujourd'hui donne quand même beaucoup de visibilité aux illustrateurs.
Ouais.
Enfin, moi, ce que j'entends à l'école, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'illustrateurs qui se font démarcher via les réseaux.
C'est dingue, hein? Mais oui, c'est hyper important. Mmh. Si on veut pas prendre part à ce jeu...
Ouais, je crois qu'aujourd'hui, c'est compliqué.
C'est obligatoire, je crois, personnellement. Je sais que tout le monde n'est pas... Oh non, moi, j'aime pas, ou je connais pas, mais je pense que c'est important de s'y mettre, quoi. Ouais. Top. Où les auditeurs peuvent-ils... suivez vos actualités, vous retrouvez.
Bon, donc sur les réseaux sociaux, nous il y a c'est à la fois sur Facebook et Instagram. Donc ça c'est voilà, pour suivre un peu toute la production.
À Montreuil.
Alors après voilà, donc ça le salon quand tu disais des conseils, effectivement on sera au salon de Montreuil évidemment. Ça c'est un temps où moi où je suis là tout le temps sur le stand et puis je reçois beaucoup d'illustrateurs, donc ça faut pas hésiter à passer sur la grume et puis même en conseil pour les illustrateurs voilà, à venir avec son
il y a un super
son carton
salon,
à dessin et puis essayer de voir, il y a quand même pas mal, tout le monde le fait pas, tout le monde joue pas le jeu, mais d'essayer de rencontrer des éditeurs, des directeurs artistiques, ouais, c'est quand même un salon important, Montreuil.
Je voulais faire un peu de pub pour un salon que j'adore, qui est pas du tout à Paris,
vas-y.
Qui est près de Toulouse, qui s'appelle le Festival BD Colomiers, voilà, qui est un petit salon vraiment axé autour de l'illustration, qui est pas estampillé ni jeunesse ni adulte ni voilà ni fanzine voilà, qu'un super salon, c'est loin de Paris, mais
et quand vous êtes sur un salon vous prenez le temps pour, parce que j'imagine que il y a plein de gens qui doivent venir vous voir, vous devez être super fatigué, maintenant vous prenez le
Guillaume,
temps
il le fait, ça en va rien.
Ouais, ça fait partie non mais si ça ouvre un petit peu, tu vois, sur un salon tu présentes tes livres, hein, donc t'es surtout là pour vendre les livres, tu montes ta production, t'as un illustrateur qui vient te montrer son, toi ça te fait une petite parenthèse même, donc du coup ça fait partie de l'équilibre du salon, t'es là pour vendre mais t'es là aussi pour multiplier les contacts, tu vois, des professionnels, des imprimeurs, et je trouve que ça fait partie de l'énergie d'un salon de rencontrer aussi les auteurs, les artistes, toi. Et on trouve quand même, alors ouais, je sais pas
quand
si
même,
on en trouve,
c'est
un moment où aussi je rencontre des gens avec qui il y a des projets un peu qui sont initiés, mais je sais pas trop. Du coup, je leur donne rendez-vous à Montreuil. Bon, il y a plein de gens qui sont en province aussi, on échange, c'est facile de faire un livre même si on se rencontre pas. Montreuil, c'est le moment un peu le rendez-vous, ils montent à Paris, ils vont à Montreuil, donc on se rencontre à cette occasion et non, moi je prends le temps je vois tout le monde.
Ah, c'est drôle parce que moi je fais quasi tous les ans à Montreuil et Je me sens. Pourtant, je suis quelqu'un de très social. Je suis quelqu'un qui aime bien discuter avec les gens. Mais alors, le premier pas d'aller voir quelqu'un sur son stand. Et j'ai toujours l'impression qu'on les embête. Tu sais que quelque part, ils sont tellement occupés qu'ils voient tellement de gens.
Franchement, il sort du lot pour ça.
Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. Dommage qu'ils fassent pas plus. Ouais.
À Montreuil, ça devrait être l'usage. T'as la tête déjà tellement. Mais.
Bah alors le truc.
C'est comme lui, il répond à tous les. Pour ça, il répond à tous les mails.
Mais c'est vrai que quand tu tiens ton stand, t'as aussi effectivement 1000 trucs à faire. Tu tiens ta caisse et tout ça, donc. Mais là, aujourd'hui, donc je reviens à Nathan, là maintenant, et on va être sur le stand, un plus gros stand tenu par un libraire. Tu vois, il y a un libraire qui sera là, donc moi je serai là présent quand même pour présenter la production. Mais il y a un libraire qui sera là pour tenir la caisse et tout ça. Évidemment, je trouve que quand même les plus grosses maisons qui du coup sont présentes sur le salon, mais ne s'occupent pas de la vente, si tu veux, elles devraient prendre ce temps-là, je trouve, de recevoir les.
Ah, moi,
je le fais. Ouais.
C'est moins intimidant, dans mon expérience, d'aller voir évidemment les gros éditeurs qui ont un plus gros stand sur lequel tu peux te balader que petit qui est juste derrière et t'as l'impression que dès que tu ouvres un livre, il va te parler, ou toi tu dois lui parler, ou t'as ton petit portfolio, je lui montre, je le montre pas, c'est un peu gênant, quoi.
Ouais. Non, mais faut le faire quand même.
Bon, ben, si vous écoutez le podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Osez, quelque part.
Très bien reçu. Bien
reçu. Osez. Parfait. Guillaume et Chloé, merci beaucoup pour votre temps. Voilà, c'était.
Merci à toi.
Passionnant. Au plaisir. C'était ma discussion avec Chloé et Guillaume. Merci à eux pour leur temps et leur gentillesse. J'ai passé un excellent moment en leur compagnie. Une bonne occasion pour lever le voile sur les réalités du métier d'éditeur indépendant. Alors, qu'en dites-vous? Si ça vous a plu, je vous invite à leur écrire directement ou à les suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus de visiter leur site internet afin de découvrir leur très beau catalogue. Et puis, qui sait, peut-être aurez-vous envie d'acheter leur livre directement en librairie. Moi, je dis que ce serait parfait pour un cadeau de Noël. Je dis ça, je dis rien. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous, notamment à vos amis qui travaillent dans le domaine de l'édition. Qui sait, peut-être bien que ça pourrait les intéresser. Vous pouvez également partager votre appréciation en me laissant un avis ainsi que quelques étoiles, 5 de préférence, sur Apple Podcast. Cela permettra à ce podcast de grandir. Et puis, si vous désirez être tenu au courant de toutes les actualités liées à ce podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Et puis, tant qu'à faire, abonnez-vous à ma newsletter. Les liens dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. Suivez-le sur les réseaux sociaux @AdrienGuyMusique. Et allez écouter ses sons sur sa page SoundCloud. C'est drôle, singulier et ça en vaut le détour. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle interview. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao.